Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Le journal avec Josine Kazé. Vous écoutez la radio Inzamba Agateka Kawe. Merci pour votre fidélité. Les titres de ce 21 octobre 2022. Commémoration d'anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. L'occasion pour le vicaire général de l'archidiocèse catholique de Bujumbura d'appeler les autorités burundaises à créer un climat propice au retour des Burundais qui ont fui le pays. C'était au cours d'une messe en mémoire de ce premier président démocratiquement élu. Certains détenus de la prison de Gitega seraient victimes de mauvais traitements. Le représentant des prisonniers est pointé du doigt. Les proches des victimes dénoncent le laxisme des responsables de cette prison vis-à-vis de cet homme accusé de maltraiter ses co-détenus. Les réfugiés burundais du camp de Nduta crient à la persécution. C'est suite à l'interdiction de cultiver les jardins potagers à l'intérieur du camp. Selon ces réfugiés, cette mesure annoncée ce vendredi vise à les enfoncer dans la misère et les obliger à rentrer. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Nous sommes le 21 octobre, les Burundais commémorent l'assassinat de Melchior Ndadaye, le premier président démocratiquement élu. Le président Ndadaye a été tué le 21 octobre 1993, en 3 mois après son accession au pouvoir. Il prônait la justice pour tous et le respect des droits de l'homme. On écoute un extrait du discours qu'il a prononcé le jour de son investiture. C'était le 10 juillet 1993.
Le Burundi nouveau sera désormais caractérisé par le respect des droits de l'homme dans tous les secteurs et pour tous. Malmener une personne, la violenter, la faire disparaître, l'emprisonnement arbitraire, le non-respect de la personne humaine pour la simple raison qu'elle est moins nantie, tout cela qui caractérise les pouvoirs dictatoriaux, nous allons dire adieu dans ce pouvoir d'unité nouvelle. Le Burundi nouveau sera caractérisé par la vraie unité nationale au Burundi, parce que l'unité nationale a été toujours torpillée par la démarche de l'injustice, l'exclusion, le non-respect. Nous allons corriger cette démarche en mettant en avant dans tout ce que nous faisons la justice pour tous, en mettant en avant le partage du patrimoine national pour tous, de toutes les ethnies, de toutes les provinces, en mettant en avant l'égalité de tous devant la loi. Que personne ne se base sur sa richesse ou son origine pour exclure les autres.
Pour rappel, le président Melchior Ndadaye a été assassiné en même temps que certains de ses proches collaborateurs. Il s'en est suivi des massacres sur plusieurs collines du pays le même jour pour venger sa mort. Dans une homélie dite à l'occasion de cette commémoration, Mgr Anatole Benintwari, vicaire général de l'archidiocèse de Bujumbura, a demandé au peuple burundais de sauvegarder l'unité. Selon lui, les obstacles à cette unité sont la rancœur, l'égoïsme, la discrimination et les divisions de toutes formes. Écoutez Mgr Anatole Benintwari.
La parole de Dieu nous demande de bien observer. Il faut que nous situions par rapport au temps où nous sommes. Nous sommes invités à puiser dans la Sainte Trinité. Quand il adviendra de quitter cette terre, nous nous retrouverons dans un même endroit. Pourquoi nous est-il difficile pendant ce voyage sur terre de vivre ensemble dans l'unité? Les obstacles à cette cohabitation sont le péché, l'égoïsme, c'est la ségrégation, ce sont les divisions, c'est le manque d'un amour. Aujourd'hui, c'est une occasion de demander à Dieu d'abandonner à jamais tous ses travers. Prions le bon Dieu pour qu'il nous aide à cultiver l'unité entre les Burundais eux-mêmes et entre les Burundais et les non-Burundais, et cela sans relâchement.
Monseigneur Anatole Rubéinhuari demande par ailleurs au président de la République d'alléger les conditions de vie des prisonniers. En ce qui concerne les réfugiés, il sollicite la création des conditions favorables au retour dans leur pays. Selon Monseigneur Anatole Rubéinhuari, un parent digne de ce nom ne peut pas être tranquille quand ses enfants dorment sous des tentes. Encore une fois, Monseigneur Rubéinhuari.
Nous sommes interpellés à suivre le bon exemple de Dieu. Ils nous ont rappelé que c'est Dieu qui guide tout le monde. Tu es appelé à être bon comme lui. Il faut que tu sois un chef de famille. Il faut que tu sentes que tout Burundais et même les autres qui sont comme tes enfants. En Kirundi, on dit qu'un parent ne peut pas garder la rancune. J'aimerais donner deux exemples. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous le savez, un chef de famille est un vocable qu'il valorise beaucoup. Il nous aidera pour que nous écartions tous les obstacles. Il y a des gens qui sont en prison. Si quelqu'un des vôtres est emprisonné, tu ne te sens jamais tranquille. Colère rend des visites, oui, mais s'il faut faire encore mieux pour qu'il soit libéré, que nous le fassions. En deuxième lieu, si un parent a un enfant qui est en exil, un enfant qui dort à la belle étoile, dans un camp de regroupement ou dans des tentes, c'est vraiment déplorable. Un parent ne peut rien ménager pour les retourner afin qu'ils puissent l'épauler. Et ainsi, ils pourront continuer à vivre ensemble.
Monseigneur Anatole Rubéinhuari, vicaire général de l'archidiocèse de Bujumbura. Les principes démocratiques prônés par Melchior Ndadaye sont loin d'être appliqués aujourd'hui au Burundi. Constat de Frédéric Bamvidiumvira, le président de la coalition de l'opposition politique Sefort Arusha. La tolérance, la liberté d'expression et la justice pour tous sont constamment foulés aux pieds. On écoute Frédéric Bamvidiumvira.
En fait, aujourd'hui, on ne dit pas ce qu'on veut. Parce que critiquer l'État peut vouloir dire la mort. Donc c'est ça la question qui est posée. Pour le président Ndadaye, la démocratie reposait sur l'existence des médias libres, surtout les médias privés, qui devaient absolument dénoncer ce qui se passait de mauvais dans le pays. Mais on a constaté qu'avec le temps, il ne reste que des médias qui chantent le gouvernement. Pour critiquer le gouvernement, les gens essaient de user des mots qui ne blessent pas pour cacher la vérité. Ça, c'est un fait. Et souvenez-vous que les médias qui osaient dire ce qu'il y avait sans embâge ont été chassés, incendiés. Donc, ça veut dire que quelque part, la question de liberté d'expression n'est pas encore là. Le deuxième élément fondamental, c'était l'existence de la société civile et libre. Constater que, à côté des médias qui ont quitté le pays, ce sont des radios, justement, qui sont parties du Burundi parce que menacées. La société civile, elle aussi, elle a quitté le pays pour tenter d'œuvrer à l'extérieur parce que, encore une fois, menacée. La société civile, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que, la liberté d'exercer au Burundi, la société civile, les idées, les contre-pouvoirs, ces organisations ne sont pas les bienvenues dans le pays. Ce sont des situations que tout le monde a vécues. Donc, autrement dit, la démocratie telle qu'elle est vécue, ça devient difficile.
Au niveau du fonctionnement des institutions, Frédéric Bamvidiumvira déplore aussi un monopole du pouvoir par le CNDD-FDD et l'immixtion de ce parti dans les trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. On l'écoute encore une fois.
On peut dire que les partis politiques n'existent que de nom. Il n'existe qu'un seul parti politique. Et je ne sais même pas si c'est un parti, mais une organisation qui s'impose à tous les autres. Et c'est celui-là qui fait le beau et le mauvais temps dans le pays. Il s'agit du CNDD-FDD qui est le parti au pouvoir. Les autres n'existent que de nom. Celui-là qui avait essayé de s'opposer Et à lui de résister, à lui en 2020, c'était le CNL, mais regardez ce qu'est devenu le CNL. Beaucoup de personnes ont été tuées, beaucoup de militants ont été tués, sont pourchassés partout, d'autres sont en prison. Mais pourquoi? Tout simplement parce que le CNL a commis le crime de lèse-majesté en essayant d'affronter le CNDD pour l'aider sur le terrain, jusqu'à gagner, d'après les on-dit. Donc ce qui fait que il n'y a pas d'exercice du pouvoir par les partis politiques, parce que d'après la constitution de 2005, il était dit que les partis politiques pouvaient aller aux élections, pouvaient gagner les élections, mais ne dirigeaient que ceux-là qui avaient un certain pourcentage et qui devaient partager le pouvoir. Ce principe a été extirpé de l'ancienne constitution, de la constitution de 2005. Donc voilà, c'est un problème qui est posé. En termes d'existence plutôt des institutions, on voit que la séparation des pouvoirs, des trois pouvoirs, n'existe pas. Donc, au niveau de la société civile, le pouvoir n'est pas arrêté parce que le pouvoir arrête le pouvoir, donc ça n'existe pas. Mais du côté de la séparation des pouvoirs, ça veut dire l'exécutif, le législatif et le judiciaire, on voit qu'il y a de la confusion. Au niveau des procès, on voit une influence directe d'un chef de parti politique, des généraux, qui orientent les procès. Autrement dit, la démocratie telle que pensée par Ndadaye, ça n'était pas celle-là.
Dans un instant, la suite de ce journal.
Inzamba.
Alerte sur les mauvais traitements infligés à certains détenus de la prison centrale de Gitega. Le détenu surnommé Général, représentant des détenus de la prison centrale de Gitega, est accusé de maltraiter ses co-détenus. Selon des sources sur place, il les fouille avant de les placer dans une cellule de correction où ils subissent des sévices. Le point avec Georges Niménia.
Dans la matinée de samedi dernier, Atib Jafet, dit Général, représentant d'autres détenus à la prison centrale de Gitega, s'est précipité à fouiller un prisonnier comme lui, du nom de Karangwa Etienne. Il a pris ses deux téléphones avant de le conduire vers la chambre correctionnelle où il a été maltraité jusqu'à ce mardi, selon les sources de Radio Inzamba, dans cette maison carcérale. Ce mercredi, le détenu Nishimagi de Jean-Paul avait demandé un entretien au responsable de la prison. Nos sources poursuivent qu'au lieu d'être reçu par son responsable de la prison, son détenu a été acheminé dans la chambre correctionnelle. Ses co-détenus ont attendu son retour, mais en vain. Ce détenu Nishimagi de Jean-Paul a finalement été retiré de cette chambre ce vendredi, selon toujours nos sources. Tous les jours qu'il a passé dans cette chambre de correction, il a été refusé de récupérer ses couvertures pendant la nuit. Le comportement de son représentant des détenus inquiète d'autres prisonniers de l'établissement pénitentiaire de Gitega, car il agit au vu et au su des responsables de cette maison. À ce sujet, nous avons essayé de joindre par téléphone la directrice de cette prison, Nishime Josiane, mais sans succès.
Actualité judiciaire. La prison à vie et une amende de 20 millions de francs burundais, c'est le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Makamba contre Léonard Nahayo, surnommé Muzayire. C'était dans un procès de flagrance le soir de ce jeudi. Léonard Nahayo a été condamné pour avoir tué son épouse Violette Minani dans la nuit de lundi à mardi de cette semaine. Le couple avait récemment divorcé. L'auteur du crime avait fui vers la Tanzanie après avoir commis le meurtre. Il a été arrêté dans le district de Kibondo en Tanzanie le lendemain du crime avant d'être extradé par la police tanzanienne avant-hier mercredi. Une peine de 120 ans de prison sera ajoutée si le condamné ne paie pas cette amende. Dans le domaine de l'éducation, c'est la grogne chez les parents d'élèves de l'école fondamentale Kivedzi 2 de la zone Kivedzi en commune Mugamba de la province Bururi. C'est suite à ce que ses parents qualifient de mauvaise gestion de leur contribution par le directeur de cette école. Cela révolte les parents. Ils réclament la lumière sur la gestion de cet argent. Les précisions de Pierre Garung.
Selon les informations recueillies auprès des parents d'élèves, le directeur de l'école fondamentale Kivedzi 2 exige aux élèves de payer à plusieurs reprises de l'argent sans connaître son usage. Autre chose selon ses parents, le directeur a renvoyé des enseignants qualifiés sans motif valable, ce qui inquiète ses parents car ceci va constituer un frein dans l'amélioration de leurs connaissances.
Ce directeur considère les biens de l'école comme son propre patrimoine. À présent, il est en train de chasser les élèves pour une somme de 500 francs burundais sans donner l'explication de son usage. Il demande 5000 francs burundais à chaque élève, expliquant que c'est pour l'achat des bancs pupitres, mais personne n'a jamais vu ces bancs. Ce qui nous inquiète davantage est qu'il a chassé des enseignants qualifiés en les remplaçant par des nouveaux enseignants. Tout cela, il le fait sans être inquiété, parce qu'il est membre du parti au pouvoir, NTT, FDP.
Il demande au directeur provincial et communal de régler cette question.
Nous demandons au directeur provincial de l'éducation et au directeur communal de l'éducation de faire une inspection dans cette école et connaître la destination des sommes d'argent que ce directeur collecte chaque fois sans être inquiété, afin d'éviter que l'image de notre école
La rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, a essayé de contacter par téléphone le directeur de l'école fondamentale Kivedi 2, mais il n'a pas décroché son téléphone.
Certains Burundais vivant au Sud-Soudan tirent la sonnette d'alarme pour dénoncer un mauvais traitement qu'ils subissent de la part de l'autorité de ce pays en complicité avec la représentation de la diaspora burundaise. Ces Burundais font partie de plus de 4000 Burundais qui se trouvent au Soudan du Sud à la quête de l'emploi. Leurs documents de voyage ont été saisis dès leur arrivée à l'aéroport d'Ojuba. Le représentant de la diaspora burundaise, de son côté, indique qu'une partie de ces Burundais n'a pas pu récupérer leur passeport parce qu'ils n'ont pas pu s'acquitter de toutes leurs obligations dans ce pays. On fait le point avec Eddie Claude Nininahazku.
Des harcèlements de la police sont à la base de mécontentement exprimé par ces Burundais de la diaspora sud-soudanaise. Cela fait plus d'une année qu'ils sont dans ce pays via l'aéroport de Djouba. Un de ces Burundais concernés par ces ennuis policiers dénonce le rôle de la représentation de la diaspora burundaise pour faire traquer leurs compatriotes en complicité avec les services de renseignement sud-soudanais.
Arrivé à l'aéroport, on devait présenter les documents de voyage et une somme de 100 dollars comptant pour les frais de visa à 50 dollars et 50 autres pour le test Covid. Et après, on attache dans votre passeport le visa d'entrée au Soudan. Mais cela n'a pas continué comme ça. Il y a des Burundais dont le chef s'appelle Aladdin. C'est lui qui représente la diaspora burundaise là-bas. Il est allé à l'aéroport pour demander de ne plus servir les Burundais en son absence. Les services de l'aéroport soudanais l'ont respecté. À partir de ce moment, on attendait qu'on vous accorde le visa, mais en vain. Tous les documents des Burundais étaient mis de côté et on nous ordonnait de partir pour revenir le lendemain parce que les heures de service étaient bouclées. Le lendemain, on nous a demandé de revenir avec nos représentants ici au Sud-Soudan et c'est Aladdin qui nous représentait à l'époque. À ce moment-là, certains ont décidé de laisser tomber et d'abandonner leur passeport à cause de toutes ces tracasseries.
Ce Burundais fait partie de nombreux autres dont les documents de voyage ont été confisqués dès leur arrivée à l'aéroport de Djouba. Représentant de la diaspora burundaise dans ce pays s'est exprimé. Aladdin Nivizi indique qu'il a été convoqué pour sensibiliser les Burundais concernés afin qu'ils aillent récupérer leurs documents moyennant versement des frais de visa.
Le problème des Burundais qui se trouvent au Sud-Soudan au sujet de leur passeport, dans la plupart des cas, leur vol arrivait à l'aéroport pendant la nuit et cela posait des problèmes. Parce qu'on ne travaille pas dans la soirée pour cause de délestage. On leur demandait de partir et revenir le lendemain pour récupérer leurs documents et surtout pour ceux qui n'ont pas encore payé. Alors, beaucoup parmi eux préféraient abandonner leur passeport. Les cas sont devenus nombreux, passant de 10, 20 à plusieurs passeports, etc. Et plus tard, après avoir constaté plusieurs irrégularités, le gouvernement soudanais, via ses services de renseignement, m'ont appelé parce qu'ils avaient des questions à me poser. J'ai répondu à l'invitation et c'est là où j'ai été informé de ces problèmes des Burundais. Ils ont constaté que parmi les personnes qui rentrent au Sud-Soudan, seuls les Burundais étaient concernés. C'est donc pour lever ces suspicions qu'on m'a convoqué pour me dire comment ils comptent gérer cette situation.
Pendant une année, les arriérés de frais de visa se sont accumulés pour ces Burundais en quête d'emploi dans ce pays. La plupart travaillent dans les champs, dans le transport des taxis-motos ou dans des ateliers de couture. La représentation de la diaspora burundaise dénonce de son côté que certains Burundais qui se trouvent au Sud-Soudan sont aussi victimes du trafic humain.
Une décision qui inquiète les réfugiés du camp de Nuta en Tanzanie. Il s'agit de l'interdiction d'entretenir les jardins potagers à l'intérieur du camp. Les responsables du camp l'ont annoncé ce vendredi. Pour les réfugiés, cette mesure s'ajoute à d'autres mesures restrictives déjà prises par les mêmes autorités pour les forcer à rentrer au Burundi. Ils sollicitent l'intervention du HCR pour trouver une solution à cette situation. Les détails avec Josephine Jones Munzimana.
C'était au petit matin de ce vendredi que les responsables du camp de Nyarugusu annonçaient publiquement qu'à partir de ce vendredi, les travaux d'agriculture sont arrêtés à l'intérieur de ce camp. Une décision déplorée par ces réfugiés. Ils la trouvent illégale.
Quelle loi a été violée en cultivant nos champs? Nous, en tant que réfugiés, nous trouvons que c'est une manière de nous menacer, puisqu'ils nous ont montré à maintes reprises qu'ils ne veulent plus de nous. Ce n'est pas la première fois qu'ils font des choses pareilles. Mais malheureusement, nous sommes aussi dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Nous adhérons à tout ce qu'ils nous disent.
Ces réfugiés demandent au HCR de suivre de près cette situation pour que ces sanctions soient levées. Selon eux, ils ne peuvent pas vivre sans cultiver les légumes qui les aident à améliorer la ration quotidienne.
Nous demandons que si réellement le HCR est là pour nous, les réfugiés, qu'il agisse en notre faveur pour que les réfugiés ne subissent pas le même sort que les Israéliens en Égypte.
Suite à ces lamentations, la rédaction de la radio Inzamba Gatika Kawe n'a pas encore réussi à avoir la version des responsables du camp de Nyarugusu.
C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre attention. Bon week-end à tous. Au revoir et à la prochaine.